France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Et merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller au théâtre Montparnasse, rue de la Gaîté, dans le 14e, pour découvrir la pièce de François Bégodeau intitulée Le Lien. Avec un duo épatant, étonnant, bouleversant et drôle, une comédienne récompensée par deux Molière, un comédien chevalier de l'Ordre National du Mérite. Bon, ok, c'est pas un Molière, mais ça peut lui pendre au nez après cette pièce. Bref, nous sommes avec Catherine Yégel et Pierre Palmade. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci,
bonjour.
Merci d'être là. Laurent. Quels sont les sujets, les thèmes abordés par cette pièce? Qu'est-ce qui a séduit nos invités à la lecture de cette pièce? Pourquoi ce duo est-il aussi une belle surprise? Enfin, c'est un trio, hein. Ils sont trois sur scène quand même, je le préciserai dans un instant. Bref, on va tout vous dire. Merci Catherine Yégel d'avoir accepté notre invitation. Merci Pierre Palmade d'être là avec nous aujourd'hui. Entre nous, moi je suis un peu impressionné quand de recevoir Catherine Yégel. Impressionné de vous recevoir, Pierre, mais Catherine Yégel, moi je sais pas pourquoi ça m'impressionne. Je sais pas si ça vous a fait ça vous aussi la première fois, Pierre.
Bien sûr, bien sûr.
Pendant qu'elle n'écoute pas, on peut se le dire.
Anciennement, ouais. Doyenne de la Comédie Française.
Ah oui, quand même, ça le fait.
Des pièces de théâtre de tout le répertoire classique à son actif. Enfin
c'est fou,
voilà, elle a connu les plus grands. Elle est elle-même une grande actrice de théâtre, une grande comédienne de théâtre, tragédienne, drôle aussi.
Ah oui.
Voilà, donc moi je passe l'oral un petit peu devant elle tous les soirs.
Ouais. Bon, alors maintenant elle peut écouter. Je me souviens d'ailleurs, il y a 3 ans, je crois que c'était au Théâtre de Paris rue Blanche, Pierre, vous aviez mis en scène un hommage formidable au sketch de Sylvie Joly. Vous aviez convoqué des comédiennes, il y avait Carole Bouquet, Anémone, Muriel Robin, Michel Rauch, elles avaient pour mission, enfin il y en avait plein, elles avaient pour mission d'interpréter des rôles, des sketchs de Sylvie Joly. Et quelle belle surprise de voir sur scène Catherine Yégel, je me suis dit... Ah bah quand même, il a fait fort.
Et... Oui, c'est grâce à Alex Lutz que j'ai eu le téléphone de Catherine Yégel. Je la connaissais du cinéma, je l'avais vue dans Gazon maudit, je me souviens, la première fois, Catherine Yégel. Puis j'étais allé la voir dans une ou deux pièces de théâtre. Et là, je l'ai en direct, elle a dit oui. Elle est venue rendre hommage à Sylvie Joly, en jouant un des sketchs de Sylvie Joly. Et c'est là où notre histoire, notre romance a commencé.
Je m'en suis douté. Maintenant, vous pouvez parler, Catherine. Effectivement, tout de suite, vous avez dit oui à Pierre parce que...
Alex m'a appelé aussi.
Ah, c'est Alex avant.
Et j'étais en tournée avec le Retour au désert. Et comme c'est le genre de truc qui me fait très très peur, le Retour au désert aussi, mais pour d'autres raisons... Mais je veux dire, c'est pas mon métier, quoi.
Ah oui.
Et enfin, je l'ai jamais fait. Et donc, j'ai dit à Alex, je peux pas, je suis en tournée. Il me dit, oh non, mais j'ai vérifié tes dates, tes livres. J'ai flûte. Je suis complètement piégé, là. Donc, j'ai dit oui. Mais en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me ramasser, ça va être l'horreur. Et en plus, à la répétition de l'après-midi, où c'est là que j'ai rencontré Pierre et que j'ai vu sa délicatesse et sa gentillesse, et je dis, mais si ça fait pas rire. Et il me dit cette phrase, il m'a dit, recommencez. Je dis, mais ça sera pire. Bon, et puis ça a fait rire.
Bah oui, ça a fait rire.
Quand vous passez derrière Muriel Robin, etc., elles étaient toutes là, les grandes pointures. Il y avait Valérie Lemercier, enfin, elles étaient toutes là.
Oui, oui, mais...
Les grandes pointures.
C'était surtout que c'était les grands textes de Sylvie Joly.
Aussi, bien sûr.
Et un texte de Sylvie Joly, c'est pas possible qu'il soit pas drôle quand il est pas bien joué.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est la bonne conclusion. En tout cas, vous avez bien fait de le faire. Allez, dans un instant, on va parler de cette pièce, Le Lien, et puis je vous demanderai à tous les deux pourquoi cette pièce, finalement, lorsque vous l'avez lue, et d'abord, si elle vous a séduit tout de suite, et est-ce que vous l'avez acceptée tout de suite, et pourquoi elle vous a séduit. On en parle dans 3 minutes.
France Bleu, Paris.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter au vert, au retour, tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir.
des malfaits, que le jour nous abîme comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins faits.
L'autre Finistère, les innocents sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Comme tous les jours de la semaine, ça commence comme ça. Une mère, son fils, bon, se parle, enfin, la mère pense qu'il se parle, mais le fils ne le pense pas vraiment. Voilà, c'est le point de départ, on ne peut pas vous en dire plus, faut découvrir ça. C'est le point de départ de cette pièce, Le Lien, actuellement au Théâtre Montparnasse, avec Catherine Yégel, Pierre Palmade et Marie-Christine Danède. Alors je pose la question à tous les deux, cette pièce si particulière, si intime, si drôle également, est-ce que vous l'avez acceptée dès la première lecture, Catherine Yégel, puisque ça s'est peut-être passé comme ça?
Non, enfin moi, je l'avais déjà fréquenté, si j'ose dire, puisque Arnaud Meunier me l'avait proposé en lecture pour France Culture et en public à Théâtre Ouvert, il y a 4-5 ans, je ne sais plus. Et je ne compte plus les années, et un peu quand même. Et je l'avais fait, et avec un grand plaisir. Et puis Ponchika Vélez,
metteur en scène,
bien sûr, m'a renvoyé le texte, et je venais de la relire quand très peu de temps après l'histoire de l'hommage à Sylvie Joly. Et Pierre Palmade a souhaité qu'on déjeune ensemble, qu'on se parle et tout. Comme moi, j'avais eu beaucoup de plaisir en le rencontrant, j'ai dit oui, on a déjeuné. Et il a commencé à dire qu'il aimerait bien travailler avec moi, jouer avec moi. Et j'ai pensé à ce texte, je lui ai passé. Je crois 2 heures après, il m'a appelé pour me dire « je veux le faire ».
Ah voilà. Oui, ah bah là, évidemment. Évidemment, quand on lit ça, et pour un comédien... puis pour vous, Pierre, c'est un boulevard, hein, une avenue royale.
Bah déjà, jouer avec Catherine, ça me rendait fou, mais il fallait trouver le texte. Et j'étais pas sûr de vouloir jouer un rapport mère-fils, parce que tout a été beaucoup dit. J'ai en tête Marthe Villalonga et Guy Bedos, la mère envahissante, j'ai mis bon sang, tout a été dit. Eh ben non, avec cette pièce-là, ça va encore plus loin que d'habitude. Et le fils rentre dans le chou de la mère, il va... C'est presque un fantasme d'engueulade, celle qu'on aimerait peut-être avoir tous avec un jour avec sa mère, parce qu'il y a des reproches qui viennent de très 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 loin.
Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve tous, si on est fils, si on est parent, si on est père, si on est mère, si on est fils, si on est fils. Et à un moment donné, c'est ça, on se retrouve dans une situation qu'on connaît tous. Voilà, notre maman qui parle, qui parle, qui parle, puis nous on décroche un petit peu, et on se dit mais finalement... est en train de parler, mais c'est pas intéressant, ça me parle pas. Finalement, le thème de cette pièce, c'est le dialogue, le vrai dialogue, le dire vrai, qui n'est pas systématiquement dans nos conversations entre personnes les plus intimes.
Il faut savoir, il faut comprendre qu'une maman, ça lui suffit d'être à nos côtés. Elle est juste contente qu'on se voit. Et nous, des fois, on aimerait avoir une conversation d'adulte à adulte, et que notre mère réalise qu'on a plus 12 ans.
Oui, mais là, c'est un petit peu plus compliqué quand même, parce que cette femme, je la crois pas sotte, même si au début, elle a ce flot de paroles, parce qu'elle est trop heureuse que son fils soit là, effectivement. Mais il y a un facteur quand même qui est très important, c'est que son fils est écrivain, qu'elle vit en province, à Rennes exactement, et qu'elle est retraitée des PTT, et que son fils est venu à Rennes, non pas pour voir sa maman, ça c'est secondaire, mais pour faire une signature dans une librairie. Or, cette mère a un complexe culturel, quoi. Elle a du mal à parler de l'œuvre de son fils, de ses travaux, etc. Donc, elle préfère parler de tout, sauf de
pour
ça.
Pour combler le vide.
Ben parce que oui, mais vous savez, c'est normal, enfin, si on n'est pas... Regardez, les acteurs, ils sortent entre acteurs. Les auteurs, ils se fréquentent entre eux. Je veux dire, ce sont des microcosmes. Mmh. Et les parents de ces gens-là sont souvent coupés, sauf s'ils sont éditeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est vrai. C'est pas si facile de faire... Moi-même, j'avais une maman formidable, mais quand elle me parlait après une première... je disais non, c'est pas du tout ce qu'on joue, mais non, c'est pas du tout ça. Elle disait oui, mais enfin moi j'ai bien aimé ça, mais elle était à côté. C'est normal quand on n'est pas au cœur même d'un travail, c'est normal.
Oui, parce que dans cette histoire, on s'aperçoit qu'elle n'a pas lu le livre de son fils.
Non, parce qu'elle a peur de pas comprendre.
Ah oui, donc c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui fait qu'elle comble.
Mais en même temps, je continue à penser que cette femme n'est pas sotte, loin de là. Et même, elle se défend avec le cœur, elle se défend avec les armes des gens simples. Mais ces armes-là vont souvent plus loin que les armes des gens dits intelligents.
Il vous a parlé de tout ça, l'auteur? Vous en avez parlé avec lui, de tout ce que vous venez de dire? Ou vous l'avez finalement acquis en réfléchissant à vos personnages? Est-ce que c'est venu comme ça? Vous êtes dit, mais oui, cette situation, finalement,
je crois que chez l'auteur, c'est beaucoup, petit peu autobiographique. Je crois qu'il a beaucoup pensé à sa maman.
Est-ce que vous discutez, parce que vous avez l'occasion de discuter déjà, il y a eu quelques représentations avec les spectateurs à la sortie, avec certains, pas éventuellement des gens que vous connaissez,
pour
un petit peu tester leur réaction?
Tout à fait. Il y a des gens qui voient. C'est drôle parce que moi j'entends rire tout le temps pendant la pièce et les gens ne me parlent après que de l'émotion.
Ah oui.
Ils disent c'était tendre, c'était émouvant.
Ah oui.
Moi j'ai l'impression qu'on a pas joué une comédie, mais comme ils s'engueulent avec de l'humour vache.
Tu m'engueules.
Je t'engueule, maman. Et les vacheries que je lui envoie et la façon dont elle se défend, ça fait rire dans la salle. Donc moi, je me dis, tiens, les gens vont se dire que c'est drôle à la fin. Et ben non, ils se disent, oh là là, quelle tendresse, oh là là, quelle émotion, oh là là, quelle situation, impossible. Parce qu'en gros, le fils voudrait divorcer de sa mère. C'est la seule femme qu'on ne peut pas quitter, c'est sa mère. Et lui voudrait la quitter, parce qu'il trouve qu'elle s'intéresse pas assez à ses livres.
Parce qu'il a l'impression d'être une chaise, quand il lui dit d'ailleurs...
Oui, mais c'est vrai qu'il est... lui, il se donne le beau rôle, mais en fait, il est un peu blessé aussi dans son ego d'artiste, parce qu'elle lui parle pas de ses livres. Et Catherine a donné la vraie raison, mais moi, je crois qu'elle s'intéresse pas à mes livres. Et puis c'est vrai, je suis un artiste qui a envie qu'on lui parle de son œuvre. Moi, ma mère m'a parlé toute ma vie de mes sketchs et d'à quel point j'étais drôle et à quel point j'étais génial.
Oui.
Bah, s'il y avait une baisse de régime, je peux vous dire que ça marchait pas.
C'est-à-dire, elle vous le reprochait,
Ah non, si jamais dans ses compliments il y avait une baisse de régime, si tout d'un coup elle oubliait de me dire que j'étais formidable, bah c'était horrible quoi.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent? Alors dans ces cas-là, faut avouer qu'on n'est pas à la hauteur.
Non,
faut
les parents d'artistes, à mon avis, beaucoup plus compliqué que par exemple. Les parents d'un fils qui reprend la pharmacie de papa. Je crois que c'est plus compliqué, quoi.
D'accord, c'est plutôt ça. Alors,
j'ai l'impression. J'ai cette sensation. C'est ça qui est touchant.
Il y a aussi le
Il y a ce fossé social.
Fossé des générations aussi.
Voilà. Pas seulement social.
Social.
Maintenant, bien sûr, c'est un artiste et sa mère. Maintenant, ce qui rend la pièce et le thème universel, c'est que je pense que, voilà, la mère a une communication de ventre à ventre avec son fils, alors que le fils, il aimerait avoir de cerveau à cerveau. Je me demande si un fils peut comprendre l'amour d'une mère.
Bah, c'est une bonne question qu'on peut se poser quand on va voir cette pièce. Moi, j'ai plutôt pensé, en tant que fils, est-ce que finalement, avec nos plus proches, les intimes, la mère, le père, est-ce que c'est vraiment avec eux qu'on se libère le plus de ce qu'on a à dire? Peut-être pas,
parce non,
que
c'est aussi pas, le cas. Je crois pas, puis c'est normal. C'est normal, c'est un tabou, la famille. C'est normal. Ou alors sinon on le passe et on rentre dans l'inceste ou dans l'Oedipe. Non, je veux dire, c'est un tabou. C'est normal.
Et puis
c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est pour ça que c'est un thème qui dure depuis l'Antiquité.
Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième personnage qui arrive à un moment donné aussi, qui va peut-être être une espèce de clé nouvelle pour déclencher ce que vous verrez sur la scène du théâtre Montparnasse. Le lien, c'est une petite main dans une grande. C'est un dialogue qui s'était éloigné entre deux êtres liés par, vous l'avez dit, le ventre, le sang, mais peut-être par plus de vérité, bonne ou mauvaise à dire, enfin bref. Il y a évidemment un événement, je viens de le dire, qui va renouer peut-être ce lien. On en parle avec nos invités, Catherine Yégel, Pierre Palmade, dans la suite de France Bleu Paris Découverte, juste après Accès Privé. Alors aujourd'hui, c'est une séquence quotidienne. Notre reporter Muriel Jordan nous fait découvrir les coulisses du plus grand show de gospel au monde, direction la Porte de Versailles. Et on revient rue de la Gaîté, juste après.
France Bleu Paris.
Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière. Je n'ai jamais dit ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon, je voudrais qu'on me donne un sentir les saisons, ce que je voulais, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je vous c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. C'est juste
Ma dernière lettre, David Hallyday sur France Bleu Paris.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu, 16h-19h.
Bonjour tout le monde.
Sur France Bleu Paris, c'est Franck Duré qui vous raccompagne.
Ce mardi, c'est Alexandra Pizzagoli qui est votre invitée pour son One Woman Show dans Fou d'Humour. Vous aurez aussi les Chevaliers du Fiel, le restaurant du jour et musique en scène pour découvrir un nouvel artiste en Ile-de-France.
Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
On répète après moi. Vert de terre.
Vert de terre.
Coup vert.
Coup vert.
Unis.
Qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse?
Bah, tu sais, c'est bientôt le week-end.
Il y a mieux pour vous encourager à passer au vert. Chez EDF, nous proposons Vert Électrique Weekend. De l'électricité verte et en plus, moins cher le week-end. Devenons l'énergie qui change tout. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr/vert-électrique-weekend. Service et appel gratuit, offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Midi et demi, c'est l'heure de retrouver, comme chaque jour, Accès Privé. Alors Muriel Jourdan, hier, nous, notre reporter, nous faisait découvrir au Dôme de Paris Palais des Sports une vingtaine de voix de gospel pour 100 voix. Ce groupe vocal composé de 100 artistes, 24 nationalités différentes. Cette fois, on va monter sur scène avec eux, en savoir plus sur ce plus grand show de gospel au monde.
Est-ce que vous pouvez me montrer un peu la scène? Ouais. Allez, on
ceux
sort de la loge.
Rudy.
Hop. Donc là, ils sont une vingtaine. Hein. Une vingtaine de voix. Normalement, il y en a 100, mais déjà, une vingtaine, c'est pas mal. Donc là, vous venez un peu vous familiariser avec les lieux, avec la salle.
Voilà, pour visualiser, on s'imprègne, on aime bien s'imprégner. En général, on se projette un peu, même s'il faut être souvent concentré sur la balance, sur nos voix, sur les dernières consignes, directives. Mais comme ça, on projette. Surtout là, ça va être bien à Paris, parce que je viens de Paris, donc il y aura toute ma famille. Donc j'imagine déjà génial. Ma famille, mes amis. C'est super.
Hey, c'est impressionnant déjà vu d'ici.
C'est un honneur, c'est un honneur pour nous d'être ici après toutes ces têtes qui sont passées. Quoi.
Vous misez tout sur votre voix, donc j'imagine que l'acoustique change en fonction des salles. Est-ce que parfois vous êtes déçu?
Bah, pas vraiment déçu, mais c'est vrai que ça surprend d'emblée quand l'acoustique ne nous convient pas et qu'on s'entend mal ou autre. Mais on s'adapte et quoi qu'il arrive, le message passe.
On peut monter sur scène?
Ouais.
Je me permets, hein, parce que là, on est en train de peaufiner. Il y a des techniciens partout, à gauche, à droite. J'ai le droit, bonjour. Ça fait de l'effet, hein, même moi je chante pas, mais quand je vois comme ça la salle vide avec ses sièges bleus, là.
Ouais, ça fait beaucoup d'effet. C'est vraiment impressionnant, en fait.
Oui, déjà,
ça, c'est
super. Impressionnante. Mais comme, ouais. Quand on est tous dessus, déjà, ça fait bien rempli avec tous les musiciens, tous les choristes, les danseurs, les chanteurs. Mais je regarde la salle tout de suite, c'est impressionnant. Voir tous les sièges vides. On a l'impression comme ça que c'est grand et que le public est loin. Mais en fait, avec l'énergie du gospel, je sais pas ce qui se passe, on a l'impression d'être vraiment tous ensemble et très proches. Ça crée du lien, c'est incroyable. Et on vit des trucs tellement forts, j'ai hâte.
Et moi, je me demande, quand je suis dans le public, est-ce que vous trichez un peu? Il y a des petites croix, je sais pas, pour que vous sachiez où vous mettre exactement ou
Les danseurs, ils ont des marquages au sol. C'est un secret, faut pas le dire.
Surtout, voilà. Nous, après, on a notre setlist aussi pour savoir le morceau suivant, voilà, pour être préparé.
Vous êtes déjà trompé?
Ça m'arrive de temps en temps, oui, j'avoue, de faire des petites erreurs. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans la chorale, donc ça va passer. Ma voix, on va dire, le but aussi dans la chorale, c'est d'avoir une voix qui se mêle bien à la chorale. Donc si notre voix ressort, c'est qu'on s'est pas bien mêlé. Donc en général, même quand on fait une erreur, ça se remarque pas trop.
Alors vous qui nous écoutez, on va vous offrir là comme ça une petite parenthèse de spiritualité. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez chez vous ou en train de faire les courses ou je ne sais où, écoutez ces voix de gospel pour 100 voix pour France Bleu.
Allez, pour la suite, rendez-vous le 8 février prochain au Dôme de Paris, Palais des Sports, à 20h30.
France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi 35, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, le lien est à l'honneur. Alors, le lien, c'est une affiche. C'est à l'affiche, pardon, au théâtre Montparnasse. C'est une très belle affiche, d'ailleurs. On est rue de la Gaîté, dans le 14e. 50 représentations exceptionnelles. L'occasion formidable de voir sur scène Catherine Yégel, Pierre Palmade et Marie-Christine Danette. C'est l'histoire d'une mère, son fils, et puis, voilà, qui essaie de dialoguer. On en a parlé à l'instant. Puis, il y a une amie qui débarque en pleine explication sur. Finalement, le manque de vrai dialogue entre cette mère et son fils. Pourquoi et comment cette amie va-t-elle être un révélateur inattendu? Bien, c'est à découvrir sur la scène du théâtre Montparnasse. Catherine Yégel, Pierre Palmade, comment est-ce que vous qualifiez d'ailleurs le rôle de ce troisième personnage qui arrive en pleine fracture entre vous deux?
François Bégodeau,
l'auteur
dit carrément c'est un ange. C'est un ange qui arrive, qui passe. C'est vrai qu'elle va détendre l'atmosphère. Pendant une heure, on s'engueule. Enfin, j'engueule ma mère qui essaye de me répondre tant bien que mal. Donc, c'est très tendu pendant la première heure. Et cette voisine passe. Et elle va détendre l'atmosphère et me détendre moi puisqu'elle va carrément me masser. Elle va me proposer un massage du foie. Et ouais. Comment vous la décririez, Catherine?
Écoutez, mon cher Pierre, pas mal.
Oui, s'il vous plaît, un peu de réflexion.
Je voulais vous dire, non, c'est souvent quand il y a crise, c'est un petit peu comme l'intervention d'un messager. C'est comme les interventions d'une tierce personne. Ça vient dénouer une crise. C'est son sens symbolique total de l'intervention de cette copine à moi avec qui je fais du yoga, ce qu'on comprend dans la pièce. On a travaillé ensemble au PTT. Mais c'est cette intervention-là d'un facteur extérieur qui vient dénouer une crise.
Voilà, c'est ça. Elle vient dénouer une crise, peut-être parce que justement elle est à l'extérieur de tout cela.
Et qu'il y avait trop surtout parce qu'elle est à l'extérieur.
Voilà, et qu'il y avait une relation très très intime qui s'était liée depuis le début de la pièce. C'est rigolo parce que vous disiez que le premier début, la première partie de la pièce est très tendue, pleine d'émotions. Mais en même temps, ça rigole beaucoup. On parlait de ça à l'instant. Vous entendez des rires. Moi, j'ai entendu beaucoup de silence parce que j'étais dans le public, beaucoup d'émotions. Est-ce que justement, dans cette pièce, vous avez remarqué que les rires étaient exactement où ils étaient prévus et les émotions où elles étaient prévues?
Ah non, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas prévu où étaient les rires et je me l'interdisais. Et Catherine me l'interdisait un petit peu aussi. Parce que et très justement, dans ce genre de pièce, si on commence à l'envisager pour qu'il y ait des effets comiques, on ne va plus la jouer normalement.
Je vous assure, si.
D'accord, oui. Il y a un effet, donc faut l'attendre. Et là, justement.
Non, mais c'est pas ça. C'est que les effets, ils sont déclenchés quand il y a des effets par l'engagement de l'acteur, par la situation. Si l'acteur intimement se dit là, normalement, je vais être drôle, à ce moment-là, son engagement profond est beaucoup moins fort. Et donc, d'ailleurs, généralement, il se prend un bide et c'est bien fait.
Donc il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion malgré tout dans cette première partie, même si on rigole beaucoup.
Et donc, oui, c'est ça.
On peut mêler les deux d'ailleurs.
C'est l'inverse un peu de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je sais qu'à telle phrase ça va rire. Mmh. Là je suis avec ma mère, les yeux dans les yeux avec ma mère. Mmh. Et au loin, j'entends les publics réagir, sourire, rire. Il y a même des « oh » ou même des « ah oui c'est vrai » quand je parle de la famille à la fin. Mmh. Il y a des... C'est très agréable, c'est une liberté, parce que c'est un carcan d'être obligé d'être drôle tout le temps. C'est une prison presque, l'humour, ou le devoir du comique. Et là, je suis sorti de prison, et je suis en liberté sur scène avec ma mère.
Mais il a un bracelet électronique.
Pour pas qu'il s'éloigne trop loin, sûr qu'il revienne le lendemain.
Oh oui.
Pour aller voir le lien au théâtre Montparnasse. Pourquoi d'ailleurs aller au théâtre en ce moment? Voilà, ça c'est une question que j'ai envie de vous poser tous les deux et on en reparle dans 3 minutes.
France Bleu Paris. France Bleu.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't
don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Human, Rag & Bone Man sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Vous avez sans doute croisé l'affiche de cette pièce de théâtre, Le Lien, en lettres majuscules brisées sur une petite main, enlacées dans une grande main. C'est un peu énigmatique tout ça, et pour en savoir plus, il faut aller au théâtre Montparnasse. C'est jusqu'au 2 mars, Le Lien, de François Bagodeau, avec Catherine Yégel, Payère, Palmade.
Non, je ne sais pas jusqu'au 2 mars, c'est beaucoup plus tard.
Mais
c'est
non.
Jusqu'à fin avril.
Oui, ah bon, 22... ça a été prolongé.
Non, mais ça fait 22 ou 23 avril, je crois.
Ah bon, bah écoutez, c'est formidable. Il y a 50 représentations exceptionnelles, hein.
C'est ça, c'est deux mois et demi.
Ça fait quand même beaucoup. Hein. Très bien. Donc jusqu'au 22 avril, vous avez le temps. Je tiens à rappeler que c'est du mardi au samedi à 20h30 et que le samedi, c'est à 17h30. Là, j'ai juste.
Là, c'est très bon.
Impeccable. Catherine Yégel est devant le micro de France Bleu Paris et j'ai cru comprendre que c'est d'ailleurs devant un micro que vous avez joué votre premier rôle à l'âge de 10 ans. Vous étiez Cosette dans une adaptation radiophonique des Misérables. Info, vrai ou vérité? Vérité ou faux?
Mais faux, parce que c'était avant mes 10 ans. Parce que mon père, Pierre Yégel, était producteur radiophonique. Moi, un studio, c'est comme la maison.
Hein. Ben oui.
Excusez-moi.
C'est pour ça que vous êtes à l'aise.
Ben complètement. Je suis beaucoup plus à l'aise que devant une caméra. Et j'ai horreur de ça. Et j'ai tous mes jeudis après-midi, à partir du moment où j'ai su lire, c'est-à-dire vers 7 ans, j'ai enregistré des émissions avec mon père.
Oh, génial. Pour quelle radio?
Pour Radio Luxembourg.
Ah oui, à l'époque c'était Radio Luxembourg. Hein.
Voilà.
Vous saviez ça, Pierre, vous?
Mais pas du tout.
Il n'était pas né, cet imbécile.
Non, mais il aurait pu consulter votre biographie.
Je connais qui était son père, je sais qui était son père, un grand monsieur de la radio.
Oui.
Mais je ne savais pas qu'elle avait été exploitée comme ça, si jeune.
Et oui, d'ailleurs, pas payée, d'ailleurs, ça c'est vrai.
Mais d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est votre père qui a dit « Arrête l'école, tu vas prendre des cours de comédie ».
Bien sûr, il a voulu, il m'a même, entre guillemets, parce que tout ça a été sans violence, bien évidemment, obligé à faire ce métier.
Ben ça va, vous étiez d'accord.
J'étais impressionné par lui et je n'osais pas le contredire. Je me suis laissé faire.
On le remercie.
Oui, on le remercie beaucoup. Non, mais bravo, il avait décelé en vous quelque chose, de toute façon, c'est évident.
Je crois que lui-même voulait être acteur, et puis il y a eu la guerre, etc. Donc, comme il était aussi un très grand musicologue, il est resté dans le domaine de la musique, la grande et la variété, mais je crois qu'il avait une vengeance.
Ah oui.
Je crois que j'étais cet outil.
Bon, bah, c'est réussi tout ça. Vous saviez, vous, ce que vous vouliez faire à 10 ans, Pierre?
Pas du tout. Eh ben moi, c'est juste après le bac que je me dis, si ça se trouve, je veux être artiste. Mais avant, j'étais juste une machine à ramener des bonnes notes.
Ah oui, d'accord, vous ne faisiez pas rire, vous ne montiez pas sur la table dans les repas
si,
de famille.
Je faisais rire, mais je n'étais pas le cancre. J'étais premier de la classe et drôle.
Ah d'accord, c'est pas mal comme début. Beaucoup de parents qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui, j'en suis sûr, ont des enfants, des ados qui rêvent de faire comédien, comédienne. Dans ces cas-là, parce que je suis sûr qu'on vous le demande très régulièrement, mon fils veut être comédien, ma fille veut être comédienne, qu'est-ce que vous me conseillez, Catherine Yégel ?
Écoutez, ça me frappe parce que moi, quand j'étais jeune élève au conservatoire, à part moi, qui vivais très tranquillement chez mes parents, tous mes camarades de classe avaient été chassés de leur famille parce qu'ils voulaient être comédiens.
Ah oui, c'était mal vu.
Ben, très. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est très bien porté. Et donc, généralement, quand on me pose la question, je dis, j'en sais rien, que votre enfant se renseigne. Parce que maintenant, il y a des femmes très bourgeoises qui m'arrêtent dans la rue en disant, ma fille veut devenir acteur. Alors, vous pensez que je la mets ou chez Florent, je sais pas. Ou alors, il faut danser le conservatoire. Et c'est très porté, c'est comme un bijou. Parce que, voilà, et ça me choque. Mm-hmm. Parce que c'est pas un fourre-tout, ce métier.
Pierre, c'est peut-être sur un autre accent qu'on vous dit « Ah ouais, moi je voudrais devenir comme toi, stand-up, faire de l'humour et tout. Oui. » Comment je fais, dit Pierre? Enfin, je prends un accent qui est peut-être pas le bon, hein, d'ailleurs.
Comment je fais? Moi qui suis un autodidacte, moi qui ai pris le train tout seul de Bordeaux pour Paris, franchement, j'ai aucun problème pour dire aux gens « Si vous voulez être artiste, vous le deviendrez. » Donc, et je suis pas trop pour, pardon, je sais que votre papa vous a... demander que les parents poussent pour faire cette carrière, parce que je trouve qu'il faut le faire presque contre la volonté des parents. Faut prouver à ses parents qu'on a eu raison d'être artiste. Faut que ça soit une guerre personnelle pour être artiste. Enfin, faut. Moi, j'aime bien que ça bien soit, quelque chose contre vent et marée.
D'accord.
Parce que c'est un statut particulier quand même d'être artiste.
Bon ben voilà, dans le lien, on en revient à cela, il y a une maman, il y a son fils, et finalement à la fin de la pièce, du lien, est-ce qu'on peut partir en se disant, et finalement tout ça, c'est de l'amour? Qu'en pensez-vous, Catherine Yégel, toute cette histoire qui est un peu difficile au début dans les rapports entre la maman et son fils?
C'est pas la même forme d'amour, l'amour d'un fils ou l'amour d'une mère, mais tout ça parle d'amour finalement. Et ce que j'entends moi quand je sors du théâtre et où je passe... au milieu du public, j'entends les gens dire « Oh là, moi, il faut absolument que ma mère voit ça. » Ou alors « Je veux surtout pas que ma mère voit ça. » Ou alors, non, c'est vrai. Tout le monde parle de sa mère ou de sa famille.
Si, il faut emmener sa mère. Bon, ou emmener son fils.
Oui.
Hein, Pierre?
Oui, c'est surtout que c'est un lien qui ne peut pas se briser. C'est comme si deux mouches dans un bocal s'engueulaient. Elles pourront jamais sortir du bocal.
Sauf si la voisine passe et qu'elle ouvre le bocal.
Oui, mais...
Il les tue.
Mais je pense que, voilà, on s'est engueulé, pas pour rien, on a eu le temps de se dire des choses, mais enfin, ça n'amènera pas à la rupture, comme je l'espérais.
On en a parlé un peu, mais juste ce qu'il faut, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir le lien, c'est jusqu'au 22 avril au Théâtre.
Nous, on y va tous les soirs, en tout cas.
Ah, on va y aller, on va y retourner même. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil, allez-y. Dans cette histoire, on se retrouve, on se découvre, on rit, on est ému et tellement ravi d'avoir passé ce moment en compagnie d'un trio exceptionnel, c'est jusqu'au 22 avril, pardon. Merci Catherine Yégel, merci Pierre Palmade d'être passé aujourd'hui sur France Bleu Paris.
Merci à vous.